Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat, comme chaque semaine, avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Alors cette semaine, vous allez nous parler de quoi ?
Eh bien, je vais vous parler de quelques innovations que j'ai glanées à Lyon.
Très bien. Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez, comme chaque semaine, la Madeleine 2, le souvenir gustatif d'une personnalité. Aujourd'hui aussi en lien avec notre plat du jour.
Oui, c'est la Madeleine de Bernard Pivot.
La Madeleine de Bernard Pivot à 12h15. Et donc pour notre plat du jour, direction Lyon, où nous nous sommes rendus mercredi à l'occasion du rendez-vous incontournable de la gastronomie, de la restauration et de l'hôtellerie, le Salon international dit CIRA, qui s'est tenu du 26 au 30 janvier. Le CIRA, c'est l'acronyme le plus connu de tout ce qui touche de près ou de loin à l'alimentation, et surtout le plus grand rendez-vous d'affaires de la planète en la matière, avec 210 000 professionnels, dont 26 000 chefs cuisiniers, venus de 132 pays. Le Salon se tient tous les deux ans à Lyon, et ce depuis 1983, et clou du Salon, le plus prestigieux concours mondial de cuisine, le Bocuse d'Or, créé en 1987 par le pape de la gastronomie française, mort il y a tout juste un an, Paul Bocuse. La finale avait lieu mardi et mercredi et nous y étions en compagnie d'un des membres du comité d'organisation, le chef lyonnais Christian Tête-d'Oie, une étoile Michelin, président des maîtres cuisiniers de France. Bonjour Christian Tête-d'Oie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on essaie de s'extirper de cet endroit qui est totalement délirant dans l'ambiance du stade qui est le Bocuse d'Or. On va en parler dans une poignée de secondes bien sûr avec vous. Mais on est donc au CIRA ici à Lyon. C'est quoi le CIRA ? C'est le rendez-vous incontournable de la gastronomie ? C'est un laboratoire d'idées géants ? Comment vous le présenteriez ?
Alors c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est pour ça effectivement que la recette fonctionne. Parce que c'est vraiment un laboratoire de nouvelles tendances, de découvertes. C'est aussi un endroit de transmission. C'est aussi un endroit où on vient acheter du matériel. Mais il y a une ambiance particulière. Et c'est ce qui a fait que ce CIRA est devenu un événement incontournable.
Incontournable, oui.
C'est qu'il y a l'ambiance qui est créée par les cuisiniers avec ce concours du Bocuse d'Or. Et toute la magie qui opère quand... Il y a 2-3 bouts d'oignons qui rissolent dans une poêle. Et puis, je crois qu'il y a la convivialité des chefs lyonnais aussi, qui a fait aussi son chemin avec notre jeu de fil Paul Bocuse, qu'on a effectivement perdu l'an passé. Mais son esprit continue à nous guider.
Ouais,
et
bien sûr.
Et on va continuer l'œuvre qu'il a lancée, parce que c'est vrai que c'est quand même lui qui a créé ce concours et ça... participer au succès de ce CIRA.
L'objectif pour les professionnels de ce CIRA, j'ai vu que c'était à la fois donc déterminer les grandes tendances de la restauration, c'est les nouvelles techniques à trouver, et puis c'est aussi anticiper les comportements de certains consommateurs. Alors on voit quand on circule dans les allées, il y a de tout, il y a les arts de la table, il y a les couteaux qu'on peut trouver, surtout les couteaux japonais qui sont si précieux pour tant de chefs, et puis il y a les stands de cuisine en eux-mêmes. Là, Christian Tête-d'Oie, on est le dernier jour du CIRA, donc vous avez peut-être eu le temps, je ne sais pas, de justement d'errer, de vous promener, de déambuler dans les allées. Est-ce que vous avez repéré des matériaux ou un matériel technique différent, nouveau, dans lequel vous aviez envie d'investir ?
Alors c'est tout le problème quand on joue à domicile, c'est qu'on est tellement sollicité sur des démonstrations, sur des repas à servir et les concours que du coup, j'ai pas eu le temps de faire le tour du salon.
Le principal objectif est raté pour vous, vous n'avez pas eu le temps.
Je suis passé à côté cette année complètement.
Alors évidemment, il y a plein de concours, il y a plein de prix qui sont organisés ici au CIRA, la Coupe du Monde des traiteurs, la Coupe du Monde de la pâtisserie. Mais le rendez-vous du salon, le moment le plus important, c'est donc le... Bocuse d'Or, qui est le concours le plus prestigieux
au monde
mondial de cuisine. C'est quoi ? C'est les JO de la cuisine, le Bocuse d'Or ?
Oui, on peut dire ça, effectivement, parce que, vous savez, le Bocuse d'Or, c'est une épopée qui dure 2 ans, c'est-à-dire que dès la fin de cette édition, les sélections nationales vont commencer. Ensuite, il y aura les sélections continentales. Et donc, bien sûr, la grande finale dans 2 ans, en 2021, ici à Lyon. Et donc, c'est une belle aventure. Donc, les chefs y travaillent énormément. Ils font énormément de recherches, de mise au point de matériel, là encore, de petites astuces pour gagner du temps, pour être encore plus performants sur la précision de leur cuisson, sur la température de leur plat quand ils l'envoient. Enfin, c'est tellement de petits détails qu'il faut bien 2 ans de travail pour arriver à ce qu'on peut voir sortir aujourd'hui en 5h30. Je peux vous dire que c'est un véritable exploit. C'est des heures et des heures
oui,
de réflexion.
Mais racontez-nous comment ça marche. Alors, il y a 24 candidats en lice qui doivent cuisiner pendant 2 jours, hein, c'est le 29 et cette année c'est le 29 et le 30 janvier, et avec un plat en particulier. C'est-à-dire que cette année, si j'ai bien compris, c'est la viande de veau française qui est à l'honneur, c'est ça ?
Oui.
Ils doivent cuisiner un plat qui a un carré de veau, 5 côtes premières. C'est une recette qu'on peut dire typiquement beaucusienne.
Absolument. Donc effectivement, il y a eu cette année, donc un hommage à Paul Bocuse forcément, et un aussi à Joël Robuchon avec l'entrée qui est la chartreuse de fruits de mer, parce que Joël Robuchon était aussi un très grand technicien de la cuisine française, et donc en sa mémoire on a choisi la chartreuse pour montrer toute la complexité d'un montage et de la découpe surtout, parce que quand on fait une chartreuse pour 6 personnes et qu'il faut la couper en 6 parts égales, si le montage n'est pas absolument performant, forcément ça peut s'écrouler et ça peut devenir vite n'importe quoi. Alors, donc effectivement, sur la finale du Bocuse d'Or, il y a 24 pays, mais il faut savoir qu'au départ, il y en a 67 à travers le monde qui concourent, et on garde effectivement, après les sélections nationales et continentales, on n'en garde que 24 pour la grande finale ici. Donc on en a eu 12 hier, et on en a 12 aujourd'hui.
Quel est votre rôle, Christian Tête-d'Oie, dans ce concours du Bocuse d'Or ?
Alors moi, j'ai la chance de faire partie du comité d'organisation depuis, mon Dieu, je ne me souviens même plus, ça va faire 28 ans, si je ne me trompe
le
pas.
Le prix a été créé en 1987, hein,
absolument.
Par Paul Bocuse.
Oui. Non, les premières années, non, je n'étais pas présent, c'était vraiment toute l'équipe resserrée autour de M. Paul. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils ont fait rentrer les plus jeunes, et c'est maintenant nous qui sommes en charge de faire continuer à vivre ce bel événement.
Alors là, on est sorti de ce lieu qui est très particulier, hein, qui est l'endroit dans le salon où se passe la finale du Bocuse d'Or. Je dis un endroit très particulier parce que l'ambiance est totalement délirante. C'est avec des supporters de chaque pays. On se croirait au stade.
Oui, mais c'est vraiment la particularité du Bocuse d'Or, c'est que c'est devenu un véritable show. Bien sûr que les candidats sont entourés de tous les gens qui les ont aidés pendant ces 2 ans de préparation. Là, je crois que je vais trahir un petit secret, mais le candidat français est quand même venu avec 16 bus.
Quand même, il y a effectivement beaucoup. On va y aller, on va aller faire un tour. Il y a quand même beaucoup de drapeaux français, on va entendre.
Oui.
Alors, Christian, cette tête d'oie, c'est effectivement une année particulière puisque c'est la première année sans celui que vous appelez encore, Monsieur Paul. Il est mort le 20 janvier 2018, soit quasiment un an jour pour jour. Il y a eu un hommage particulier, me semble-t-il. C'était mardi soir à l'abbaye de Collonges au Mont d'Or, donc chez Paul Bocuse. Un dîner de grands chefs du monde avec 200 chefs étoilés.
Effectivement, c'était un grand moment d'émotion puisque un grand chef du nom de Michel Guérard a pris la parole et a rendu un hommage absolument incroyablement touchant à son ami Paul. Et voilà, donc j'ai de la peine à en parler encore.
C'est vrai, ça vous touche encore autant. Vous devez beaucoup à Paul Bocuse, c'est lui qui vous a formé.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous diriez qu'il vous reste aujourd'hui ? Est-ce que c'est une façon de faire, une façon d'être ? Est-ce que c'est la cuisine en elle-même ? Christian Tête-d'Oie.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Paul Bocuse, j'avais 17 ans, je sortais d'apprentissage et donc il m'a guidé tout au long de ma carrière. Et si j'ai une chose à retenir de lui, c'est son extrême rigueur dans le travail et dans le respect du client, dans ce souci permanent de la transmission du savoir auprès des jeunes. Voilà. Et donc j'essaye d'être encore modestement son élève et de continuer à faire vivre cet esprit qu'il avait.
Vous l'avez rencontré, dites-vous, quand vous aviez 17 ans. Mais si vous êtes honnête, Christian Tête-d'Oie, votre admiration a commencé bien plus tôt.
Absolument.
Puisqu'il me semble que c'est quand, pour vos 10 ans, votre oncle vous a offert la cuisine du marché, livre de Paul Bocuse. Je me trompe.
Alors, je ne sais pas si mon berceau est tombé dans une marmite, mais en tout cas, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire cuisiner. Et effectivement, mon parrain, qui était quand même assez proche de moi, m'a offert pour mes 10 ans la cuisine du marché de Paul Bocuse. Et je me suis tout de suite mis à rêver que je pourrais un jour devenir comme ce chef-là.
Vous vous en servez encore de ce livre ?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre ? Qu'est-ce qu'il a apporté tant que ça, Paul Bocuse, à la gastronomie ?
Il a apporté un coup de jeunesse à la cuisine française, en son temps, justement, avec Michel Guérard, Pierre Troisgros, il y avait Alain Chapelle aussi. Et donc, ils ont à la fois avec beaucoup d'intelligence, respecter la grande tradition française tout en lui apportant la capacité de s'inscrire dans les décennies à venir. On peut dire que tous les 50-60 ans, il faut redonner un coup de grand ménage.
De renouveau, de jeunesse. Paul Bocuse se revendiquait de la cuisine, lui, de Fernand Point. C'était quoi la cuisine de Fernand Point? Vous l'avez pas goûté, vous êtes trop jeune, mais quand même, elle est restée.
Eh bien, si. J'ai eu la chance, très jeune, en arrivant justement à Lyon, d'être invité à la pyramide à Vienne et de pouvoir déguster la cuisine de Point. Bon, bien sûr, c'était plus lui qui la faisait, mais donc son chef qui était encore là.
Alors, c'était quoi cette cuisine? Comment elle se caractérisait, cette cuisine?
Ah ben, c'était la grande cuisine bourgeoise française. C'était une cuisine riche, hein, donc au beurre, pas à l'huile d'olive. Voilà, une cuisine gourmande. Bien sûr, avec les meilleurs produits du monde. Je me rappelle du turbo cardinal, avec des turbos épais de 10 kilos. Donc, ils en faisaient des pavés absolument monstrueux, de 3 cm d'épaisseur, cuits sur la peau, avec l'arête. Donc, on avait tout ce côté des sucs, un petit peu du poisson, qui viennent coller un petit peu aux lèvres, là, qui est très goûteux, bien sûr. Et avec des sauces d'anthologie. Je crois que Fernand Point, c'était aussi les sauces.
On entend là, de loin, puisque encore une fois, on s'est un peu éloigné pour pouvoir discuter, Christian Tête-Doie, mais on entend là l'ambiance folle derrière pour le Bocuse d'Or. Vous avez quand même, vous n'avez pas eu le temps de déambuler dans les allées du Syrah, disiez-vous, mais vous avez quand même eu le temps de regarder, je suppose, cuisiner. C'est 12 hier, mardi, et 12 aujourd'hui. C'est pas encore complètement fini. Qu'est-ce qui vous a plu? On va pas donner des noms, on va pas donner des pays. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous plaisait ou qui, tiens, vous disiez, tiens, là, celui-là, il a quelque chose. Un savoir-faire ou des odeurs, des saveurs. Racontez-nous un peu, quoi.
Moi, j'étais époustouflé par un pays, effectivement, hier, parce qu'il y avait ce souci du détail, donc à la fois qui regroupe l'élégance, l'intelligence, le raffinement et la gourmandise. Et ça, c'est quand même très compliqué à obtenir. J'espère qu'il sera sur le podium parce que le travail était vraiment exceptionnel.
Christian Tête-Doie, il se trouve que ce carré de veau 5 côtes premières, on disait c'est une recette typiquement bocusienne. En fait, c'est l'un des plats avec lesquels il a obtenu sa deuxième étoile en 1962. Elles étaient comment, ces côtes? Qu'est-ce qu'elles avaient de si particulier, ces côtes? Vous les avez sûrement goûtées, voire essayé de les refaire à votre façon.
Ah ben, Monsieur Paul disait toujours que pour faire une bonne cuisine, il faut avoir des bons produits. Donc, il a toujours su, par contre, s'entourer des meilleurs fournisseurs. Et donc, déjà, la sélection du produit était impeccable. Et donc, sa côte de veau, il la faisait en cocotte, tout simplement. Mais avec de la maîtrise, on arrive à développer les arômes de Maillard. Donc, cette coloration blonde qui extrait les sucs et qui les caramélise légèrement au-dessus, mais pas trop, et qui donne toute la suavité à un plat.
On va vous retrouver d'ici quelques minutes, on va laisser passer le temps de la Madeleine de... Et figurez-vous aujourd'hui, c'est la Madeleine de Bernard Pivot qui nous parle de la cuisine lyonnaise. A tout de suite, Christian Tête-Doie.
On vit pour le client, c'est-à-dire qu'on fait un métier qu'on aime. Et donc, si on fait de la cuisine, c'est la cuisine qu'on aime et qu'on essaye de faire goûter aux gens.
Nous aussi, c'est la cuisine qu'on aime. Natacha Triou, la Madeleine de...
La Madeleine d'un célèbre Lyonnais, Bernard Pivot. Alors quand je lui ai proposé cette interview, il m'a tout de suite répondu avec plaisir. Les souvenirs gourmands sont les meilleurs. Ça a été un rendez-vous très appétissant, parce que celui qui a animé Apostrophe et Bouillon de Culture fait aussi partie du Club des 100, le club gastronomique français. Alors pour sa Madeleine, Bernard Pivot nous parle de cuisine lyonnaise.
Madeleine, c'est un plat typique, un plat renommé de la cuisine lyonnaise qui s'appelle les quenelles de brochet. Je suis lyonnais, mes parents étaient lyonnais, ma mère était une formidable cuisinière et l'un de nos plats préférés était ces quenelles de brochet. Et alors, elle n'achetait pas les quenelles chez le charcutier, pas du tout. Elle faisait elle-même ses quenelles. C'est-à-dire qu'elle achetait le brochet, elle achetait tout ce qu'il faut pour faire la panade. Et elle faisait son mélange avec sa recette particulière, qu'elle tenait secrète d'ailleurs. Elle avait une grande réputation, non seulement dans la famille, mais même chez les clients de l'épicerie familiale, auxquels elle vendait d'ailleurs ses propres quenelles. Voilà. Donc, pour moi, la cuisine lyonnaise, qui a beaucoup de facettes, la poularde de Mideuil, les gratins de foie de blanc de volaille, etc., mais les quenelles de brochet, c'est quand même la chose qui remue le plus ma mémoire. quenelle est... Oh, si, vous avez dû voir des quenelles, c'est pas possible. Ça ressemble à comme un petit fuseau, comme ça, un peu jaune, avec la pâte. Et donc, ça sent un petit peu, très subtilement, le poisson, le brochet. Et donc, on l'accompagne, généralement, d'une sauce nantua. C'est-à-dire que c'est une sauce aux écrevisses, avec du beurre d'écrevisses. Puis, une autre façon, aussi, c'est de les faire, c'est gratiner. J'aimais beaucoup aussi les gratiner, mais alors... pour la vision des quenelles, c'est-à-dire que gratinées, les quenelles, elles sont soufflées, et donc elles augmentent de volume. Et souvent, en tout cas, quand ma mère faisait ses quenelles, elle gonflait tellement ses quenelles qu'elle levait le couvercle de la coquelle en fonte. Alors évidemment, elle retombe très vite, hein, il faut vite se servir, mais c'était admirable. Donc ces quenelles étaient bonnes, délicieuses, et en même temps, magnifiques à voir.
Retour à Lyon, au CIRA, ce grand salon de la restauration, de l'hôtellerie, de l'alimentation, en compagnie du chef cuisinier Christian Tête-d'Oie. Christian Tête-d'Oie, vous faites, vous, de la gastronomie lyonnaise? Vous diriez que vous êtes lyonnais avant tout?
Alors oui, et c'est d'autant plus fort que je ne suis pas lyonnais d'origine, puisque je viens du pays nantais. Mais j'ai eu tout de suite un coup de cœur pour cette cuisine. Pourquoi? Parce qu'elle a une histoire. C'est une histoire de femme. Cuisinière qui n'était pas du tout du sérail de la cuisine.
Les fameuses mères lyonnaises.
Les fameuses mères lyonnaises. Alors beaucoup de gens ont gardé l'image des mères lyonnaises issues de maisons bourgeoises. Eh bien non. Les premières mères lyonnaises, elles ont été d'abord femmes de canuts. Les canuts étaient des hommes qui travaillaient énormément, qui avaient tendance à
lever. C'était les ouvriers de la soie.
Absolument. Ils avaient tendance à lever le coude un petit peu trop. Et donc, malheureusement, ils quittaient ce bas monde assez tôt. Et ces femmes se retrouvaient veuves. Avec des enfants. Et donc, pour subvenir à leurs besoins, elle faisait la cuisine chez elle, à base des bas morceaux que les bouchers ne vendaient pas, donc tous les abats, qu'ils jetaient. Et donc, elles ont inventé une cuisine très intelligente, à base de bas produits. Elles cuisinaient chez elles et elles allaient vendre dans la rue. Et là, elles ont été repérées par les grands bourgeois de la ville, parce qu'ils se régalaient de leurs petits plats comme ça sur le pouce, dans la rue, et ils les ont pris à leur service. Et après, elles sont devenues effectivement cuisinière de maison bourgeoise.
Il y avait par exemple la mère Fillou.
Alors ça c'est bien après, parce que du coup là on est carrément sur des femmes qui ont monté leur restaurant.
La mère Brasier.
C'était encore la génération d'après des mères lyonnaises. Hein.
Mais, voilà. On les appelait quand même les mères lyonnaises.
On les appelait les mères,
encore,
absolument.
La mère Brasier, là où Paul Bocuse a fait son apprentissage
absolument.
D'ailleurs. Hein, la mère Brasier au col de la Luère à Paul-Lyonnais.
Notamment, donc elle avait son restaurant déjà rue Royale et au col de la Luère. Et quand Paul était donc jeune homme, il faisait 36 km à vélo par jour pour aller travailler au col de la Luère.
Donc on a totalement tort d'opposer la cuisine populaire des bouchons et la cuisine bourgeoise des mères lyonnaises, au fond.
C'est
la même cuisine, c'est la continuité,
oui.
C'est la même histoire.
Oui, effectivement, non, c'est exactement la même cuisine.
Donc cette cuisine, vous vous en revendiquez aujourd'hui, vous revendiquez cet héritage d'une gastronomie lyonnaise. Ça veut dire que vous faites une cuisine à partir d'abats et de bas produits vous-même?
Alors ça m'arrive, évidemment, dans mon restaurant étoilé un petit peu moins, mais j'ai la chance d'avoir 5 autres établissements. Et donc, dans un de mes restaurants qui s'appelle La Voûte chez Léa, là, on y fait vraiment cette cuisine lyonnaise, de mère lyonnaise, puisque cette affaire a été créée en 1943 par Léa Bidot, qui était une des grandes mères lyonnaises. Je le dis avec beaucoup de recul, puisque c'est les recettes de la mère Léa, ce n'est pas les miennes. Et c'est absolument délicieux, quoi. Elle faisait le poulet au vinaigre comme personne d'autre. Le sauté de gradouble, pareil. Si vous n'en avez jamais mangé, c'est là qu'il faut le manger, parce que elle le cuisinait d'une telle façon que même ceux qui n'aiment pas la tripe, ils sont obligés d'adorer ça. Et cette femme avait un sens inné pour tout magnifier. Et donc toutes ses recettes sont très personnelles. Elle fait la salade lyonnaise comme personne. Beaucoup la font avec l'œuf poché. Elle la faisait avec des œufs durs. Je ne vais pas vous donner la recette parce qu'il faudra venir la goûter. Mais c'est la meilleure de Lyon. Il n'y a rien à faire.
Vous faites un menu du terroir dans un de vos restaurants. C'est important cette tradition pour vous?
Alors moi je suis issu de la campagne, donc mes parents étaient maraîchers agriculteurs, donc j'ai grandi à la ferme, il y avait à la fois des animaux et effectivement de la culture de légumes, donc évidemment pour moi le terroir est important. Et dans le restaurant étoilé, oui effectivement il y a un menu que j'appelle Cuisine de Lyon. En ce moment justement il y a une timbale avec quenelle, riz de veau, crête et rognon de coq, et c'est un très très joli plat, très gourmand, plein de couleurs et de saveurs différentes.
Vous disiez tout à l'heure, citant Paul Bocuse, qu'il n'y avait pas de bonne cuisine sans bon produit.
Oui.
C'est quoi pour vous un bon produit? C'est un produit local? C'est un produit régional? C'est un produit qu'on trouve en circuit court? C'est quoi?
Alors, on est tellement gâtés en France qu'on se rend même plus compte de la qualité des produits qu'on a. Mais on est vraiment extrêmement gâtés. J'ai fait un travail pour un voyage ministériel il y a quelques années. Et donc, le ministre de l'époque m'avait demandé de faire une conférence à Séoul pour expliquer comment était née la cuisine française. Donc, j'ai fait des recherches et je me suis aperçu que, du temps de la royauté, en province, tout le monde voulait être présent sur la table du roi. Et les producteurs aussi. Et à ce moment-là, ils se sont mis à chercher, à trouver les meilleures variétés, à sélectionner les meilleures races à viande pour les volailles. Et on a une culture et un savoir-faire vraiment ancestral de productivité en France, qu'elle soit légumière ou d'élevage, qui est absolument incroyable. Donc le produit, effectivement, c'est un produit qui a respecté son process naturel, si on veut, hein, ne pas faire de la culture intensive, par exemple, ou de l'élevage intensif, laisser les bêtes grandir à leur rythme avec le maximum de confort, parce qu'on sait très bien qu'un animal qui naît et qui vit dans un endroit privilégié, il va être bien meilleur, il va prendre plus de gras parce qu'il est heureux de vivre, tout simplement, donc il va mieux profiter.
Vous en parlez avec des pétillances dans la voix et les yeux qui sourient en même temps, Christian Tête-d'Oie. Alors, j'ai lu que vous aviez un plat phare, mais peut-être que les plats phares et signatures évoluent avec le temps, vous allez me le dire. J'ai lu que pour vous, c'était le HTV.
Absolument.
Le homard tête de veau, c'est encore vrai ça ?
C'est très très vrai.
C'est une drôle d'alliance, un drôle d'alliage.
Alors figurez-vous que c'est justement pour faire le lien entre ma région d'origine, donc le pays nantais, et ma région d'adoption, le pays lyonnais, où on mange effectivement beaucoup de têtes de veau. Voilà, donc le homard pour le pays nantais. Et donc j'ai, avec peut-être un peu de chance, mis au point une sauce de façon spontanée un jour.
Nantou-lyonnaise ?
Oui. Qui fait encore école et que beaucoup de chefs aimeraient bien avoir la recette. Donc, cette
et
sauce.
Vous la donnerez pas, c'est ça?
Je ne vais pas la donner, non. Voilà, qui allie terre et mer. Et ce plat, je le fais depuis maintenant 32 ans. On en fait 4 versions différentes chaque année. Donc, il évolue avec son temps, avec les modes, avec les couleurs et les saveurs d'aujourd'hui. Et j'en ai toujours autant de plaisir à le faire découvrir à tous mes clients.
Bon, on va vous laisser retourner. Dans l'ambiance de folie du Bocuse d'Or, puisque les délibérations n'ont pas encore eu lieu, tous les chefs en lice n'ont pas encore fini de cuisiner leur plat et le plat pour lequel ils seront jugés. Il y a un vainqueur.
Eh oui, il y a un Bocuse d'Or, il y a bien sûr un Bocuse d'Argent derrière et un Bocuse de Bronze, ce qui est déjà
plus... Ah, il y a quand même un podium de 3.
Plus qu'honorable, mais l'or, c'est quand même pas mal.
Et qu'est-ce qu'on en fait quand on a un Bocuse d'Or? Ça donne quoi comme...
Alors là, pour le
coup, c'est comme une médaille, c'est quoi ?
Oui, oui, bah c'est vraiment le quand même le summum hein, qu'on peut espérer aujourd'hui.
C'est vraiment le concours le plus prestigieux,
le plus respecté
au monde,
hein. Ouais. Oui.
Et le plus estimé. Après, des restaurateurs.
Ils n'en font pas tous grand-chose. Notre dernier lauréat en France, c'est donc Thibaut Ruggieri qui a monté son restaurant. Donc, mais après, c'est un choix de vie. Il a préféré embrasser une carrière à son rythme, avec sa façon de transmettre sa passion avec ses collaborateurs et ses clients. C'est tout à fait honorable. Il y en a d'autres qui ont des carrières plus impressionnantes en prenant des places dans des palaces extraordinaires. Voilà, il y a un petit peu de tout.
Vous n'avez jamais voulu concourir ?
Alors moi, j'ai eu la chance d'être meilleur ouvrier de France assez jeune.
Oui.
Et donc,
en
du coup,
2004.
Derrière, on ne peut rien faire.
Ah,
une
d'accord.
Fois qu'on est meilleur de France, on n'a pas le droit de faire autre chose.
Ah d'accord, on ne peut pas faire les deux. Bon, quelle heure est-il ? Il est midi moins 10. Dans une petite dizaine de minutes, vous allez pouvoir déjeuner, Christian Tête-d'Oie. Et je crois que le déjeuner de ces Bocuse d'Or va être concocté par Mathieu Vianney, qui est un chef cuisinier qui a 2 étoiles.
Absolument.
Ici à Lyon, qui d'ailleurs officie au fourneau du restaurant de la Mère Brasier, rue Royale. Vous avez déjà une idée de ce que vous allez pouvoir manger là ?
Eh oui, je suis dans la confidence.
Ah, est-ce que vous pouvez nous le dire ?
Oui, alors donc il a préparé, on va dire, une petite gelée de gambas avec du caviar pour commencer. Ensuite, il y a un rôti de veau avec un très très bon jus, comme il sait faire. Pareil, un jus avec des pieds de veau, vous savez, pour que ça colle un peu aux lèvres. Là, on a la bouche complètement prise par les sucs de viande. Là, c'est absolument merveilleux. Et puis après, il a fait une pavlova aux fruits rouges.
Eh bien, bon appétit. Merci beaucoup, Christian Tête-d'Oie.
C'est un plaisir. À bientôt.
Et Et il faut quand même qu'on vous donne les résultats de cette finale qui a eu lieu donc mercredi soir. Le vainqueur du Bocuse d'Or cette année, c'est la Scandinavie, avec par ordre sur le podium le Danemark, la Suède et la Norvège. Le Danois Kenneth Toft Hansena, pardon pour la prononciation, a donc remporté le Grand Prix. Et comme dirait très justement Catherine Roig, notre partenaire mensuel de Version Fémina, il y a encore un très sérieux effort à faire pour féminiser ce concours. On a compté une femme sur les 24 jurés et une femme parmi les 24 finalistes, alors peut mieux faire. Pierre-Yves Bernard, on reste à Lyon puisque le CIRA, c'est aussi un lieu où l'on peut dénicher quelques innovations. Christian Tête-Doigt nous le disait, quelques tendances. Est-ce que vous avez trouvé quelques tendances, vous ?
Bien, d'abord, vous avez rappelé les chiffres, Caroline, qui sont impressionnants. Donc la première question dans ce genre de manifestation, de foire, on peut dire, ces gigantesques plateformes d'échange de cartes de visite pour faire du business, est-ce qu'on a effectivement des chances d'en tirer quelques tendances de fond pour les mangeurs que nous sommes ? Bien, une première réponse vient déjà de la programmation qui, entre deux éditions, je rappelle que le CIRA est en biennale, marque à elle seule des évolutions considérables. Qui aurait ainsi imaginé, voici deux ans, qu'un débat intitulé « Le futur des ressources alimentaires » puisse se dérouler dans cette instance ? Jusque-là, au CIRA, on cuisinait, mais nul ne se posait de questions sur la disponibilité des produits. Qui aurait organisé, je cite, « des parcours green pour valoriser des initiatives durables et responsables » ? Qui aurait pensé que l'un des invités à une conférence puisse être Dixon Despommiers, qui est microbiologiste, écologue et professeur de santé publique et environnementale à l'Université Columbia de New York. Bref, toutes les tendances autour du mieux-être grâce à une nourriture saine, avec une attention particulière au territoire, que l'on peut noter ça et là, et on en a vu beaucoup dans cette émission, se sont trouvées confirmées à Lyon à grande, très grande échelle. La deuxième grande tendance me semble tenir dans le bond spectaculaire du nombre d'exposants étrangers qui frôle désormais les 30% et a presque doublé depuis l'édition précédente. Le phénomène est bien entendu le produit de multiples facteurs, mais j'en retiendrai au moins un qui revient régulièrement dans la bouche des opérateurs, particulièrement européens, sous la forme d'une pensée que je qualifierais volontiers de bocusienne ou michelinesque. En effet, de nombreux étrangers se sont demandé pendant un temps si notre pays saurait innover avec un tel poids de la tradition gastronomique sur ses épaules, et particulièrement à Lyon. Et ils ont constaté que le renouvellement des générations de professionnels était, de fait, porteur de bien des innovations, positionnant encore la France comme le pays qui a quelques longueurs d'avance.
Est-ce que vous avez, Pierre, quelques exemples d'exposants du CIRA qui rentrent dans cette catégorie ?
Eh bien oui, Caroline. Comme par exemple, dans un domaine où l'on ne nous attendait guère, les contenants. Prenons ainsi une entreprise qui s'appelle First Plast, une entreprise qui est familiale, qui a créé en Essonne pendant, voici, 40 ans. Et comme son nom l'indique, elle fabriquait depuis toujours de la vaisselle en plastique. Les voilà aujourd'hui leaders pour les pots, saladiers, couverts et autres gobelets, mais cette fois-ci en bois, amidon ou bambou. Et comme nul n'est prophète en son pays, leur premier client, c'est l'Allemagne. Même chose pour cette start-up lyonnaise, d'ailleurs, qui s'appelle Harry & Co., qui produit des soupes aux légumineuses qui cochent toutes les cases santé et circuits courts et qui sont vendues dans des bouteilles biodégradables, végétales, à base de canne à sucre et de maïs, et qui devraient se retrouver très prochainement référencées chez un grand distributeur. Il y a donc bien une tendance de fond qui semble désormais parcourir les allées de ce type de manifestation, qui sont par ailleurs aussi des marchés, faut-il le rappeler, c'est celle générée par un consommateur désormais de plus en plus conscient des enjeux de ses achats et qui vient durablement bousculer la loi de l'offre et de la demande.
Merci Pierre-Yves Bernard, votre chronique est à retrouver sur le site des Bonnes Choses et sur votre site, le site Alimentation Générale. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis pour la réalisation et notre technicienne du jour, Élise Le, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Merci à Yann Frécy qui m'a accompagnée à Lyon. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.